Et ce sera aujourd'hui. Donc, on va être tous frustrés, y compris moi, pour tout ce qu'on n'a pas dit sur le concile et qu'on aurait pu dire. Voilà, c'est un choix. Hein. Un certain nombre de séances du soir, on était devant un entonnoir, il a bien fallu passer par quelque part, mais on pouvait tellement faire d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a des sessions complémentaires. En tout cas, aujourd'hui, d'après notre programme, ça s'intitule « La réception de Vatican II est encore devant nous ». Et c'est une citation de Joseph Ratzinger. Oui. Donc, la vraie réception de Vatican II n'a pas encore commencé, disait-il, quand il n'était pas encore pape. Et je pars de cette phrase qui me semble très juste pour vous introduire. D'abord, ce sera au discours du même personnage devenu Benoît XVI à la Curie romaine. C'est ce discours que vous avez sous les yeux, avec des petites illustrations, parce qu'on ne peut pas manquer de faire des petites illustrations. Alors, vous avez bien remarqué que c'était les papes du concile, puis un patriarche Olo, dont on ne sait pas très bien qui c'est, et puis l'anneau qu'ont reçu les pères conciliaires, un bel anneau en argent, même si ça a l'air d'être de l'or, c'est en argent. Je ne l'ai pas eu, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas eu, mais en photo, oui. Et ici, au moins, une étudiante qui croit que j'étais là pendant le concile. J'ai dû lui expliquer que non, je n'y étais pas. Alors, j'ai déjà dit le premier soir de nos rencontres, c'était le 29 septembre, qu'à beaucoup d'égards, Vatican II demeure un concile fort différent de tous les autres, parce qu'il a produit un ensemble de documents plus abondants que tous les autres conciles réunis. Parce qu'il s'est singularisé par une présence du pape de plus en plus forte, insistante, active, au fur et à mesure de son déroulement. Nous en avons encore parlé la fois dernière à propos de Paul VI. Parce que, au fond, il a constitué une vraie nouveauté dans son style. Ça, c'est la position du père O'Malley, qui dit que Vatican II, c'est un événement de langage. On n'a pas, à Vatican II, continué, sous la forme de canon, à anathématiser tous ceux qui ne penseraient pas ce qui va être défini, non. On a cherché à exhorter et à convaincre. C'est un style plus rhétorique, dit-on. Mais ces arguments venaient en ligne droite de l'Écriture et de la meilleure tradition. Et pourtant, ceux qu'on cherchait à convaincre n'étaient pas seulement les fidèles, mais aussi tous les hommes de bonne volonté, selon l'expression de Jean 23. Et pourtant, comme tous les conciles, il a bien dû produire des textes. Des textes ratifiés par les pères, des textes promulgués par le pape, en union avec les pères. Et c'est bien à ces textes que, pendant toutes ces séances, nous nous sommes attachés, même si nous n'en avons retenu que 10 ou 11 sur 16. C'était, je vous le disais, cette lecture, hein, au galop parfois, c'était en vue de recevoir ces textes, d'abord dans leurs lettres, parce qu'il faut savoir exactement ce que dit le Concile. Et pour autant qu'on les reçoive dans leurs lettres, alors on les comprendra aussi dans leur esprit. Voilà tout un défi, si l'on en croit l'immense littérature contemporaine au sujet du Concile, surtout maintenant, dans les dernières années, une abondante littérature sur l'herméneutique du Concile. C'est pour faire savant qu'on dit herméneutique, hein. On pourrait dire interprétation, mais ça ferait trop français, donc on dit herméneutique. Attention, l'herméneutique, l'interprétation, c'est pas tout à fait exactement l'explication ou le commentaire, c'est autre chose. On va déjà plus loin que le simple commentaire du texte. On est déjà en train de faire des choix, si vous voulez. Bien, cette herméneutique du Concile se développe beaucoup aujourd'hui, mais elle connaît, elle aussi, des mouvements tout à fait divers. On va dans les sens opposés. Alors nous allons aujourd'hui nous expliquer, ça ne va pas être plus facile que les autres fois, sur l'herméneutique et la réception du concile. C'est pas la même chose, on va s'expliquer là-dessus. Et comment ces deux notions se hiérarchisent? Est-ce qu'il y en a une qui est plus importante que l'autre? Qu'est-ce qui compte finalement? Est-ce de recevoir le concile ou de l'interpréter? Nous qui n'avons plus peur donc de Vatican II, hein, puisque qui a peur de Vatican II? En tout cas pas nous. Hein. Alors, je pars du fameux discours du pape Benoît XVI. C'était sa première allocution à la Curie romaine. Donc, il parlait à son propre gouvernement, si vous voulez. Et on était là alors aux approches de Noël 2005. Le pape avait été intronisé au mois d'avril. On est là à quelques mois de l'élection. Puis, j'essaierai de caractériser, dans un deuxième point, notre méthode. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Et essayer de montrer ce qu'on a fait. C'est important, parce que si on réussit à montrer ce qu'on a fait, alors, avec la même méthode, on peut continuer à le faire. C'est le but. Et puis, je m'expliquerai, oui, toujours sur la réception du concile, et aussi, avec un peu, prenant un peu de temps pour ça, sur les questions que le concile a laissées ouvertes. Il le savait. Mais, enfin, on le sait encore mieux aujourd'hui. Quelles sont les questions qui restent ouvertes? Donc, le premier point s'appelle herméneutique, hein, faut faire simple. Herméneutique de la rupture, herméneutique de la continuité, herméneutique de la réforme. Ce sont des locutions qu'on trouve dans le discours du pape qui s'adressait, vous le voyez, aux cardinaux, à ses frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, chers frères et sœurs. Oui, parce que dans la curie romaine, il y a aussi des femmes parfois. D'accord. Voilà. Donc, comme on peut le voir, si vous gardez un peu ce texte dans lequel les soulignés sont de moi, c'est là un discours vraiment fondateur du pontificat. Et ce n'est encore qu'un extrait du discours. Après, parce qu'il est beaucoup plus long que ça, si je l'avais pris tout entier, ça serait le double. Hein. Il a d'abord commencé par faire un très très long et très appuyé hommage à son prédécesseur et ami, Jean-Paul II. Voilà. Mais je n'ai pris que la partie qui concerne proprement, au fond, son discours du trône, si vous voulez. Hein. C'est un peu ça aussi. En même temps que l'homélie qu'il a faite le premier jour de son installation, ceci, c'est vraiment son programme de gouvernement. C'est ici, alors que ça commence, quand il se pose la question du résultat de Vatican II. Donc, ce souvenir de Vatican II suscite la question suivante. Quel a été le résultat du concile? A-t-il été accueilli de la juste façon? Dans l'accueil du concile, qu'est-ce qui a été positif, insuffisant ou erroné? Que reste-t-il encore à accomplir? Et alors, voilà, il continue. Donc, c'est en se posant cette question du résultat du concile qu'à un certain moment, il dit, vous avez le texte sous les yeux, vers la fin de la première page, il dit: cette question apparaît, pourquoi l'accueil du concile dans de grandes parties de l'Église s'est-il jusqu'à présent déroulé de manière aussi difficile? Eh bien, tout dépend de la juste interprétation herméneutique du concile, ou comme nous le dirions aujourd'hui, de sa juste herméneutique, de la juste clé de lecture et d'application. Les problèmes de la réception, alors là il ne s'explique pas sur la réception, les problèmes de la réception sont nés du fait que deux herméneutiques contraires se sont trouvées confrontées et sont entrées en conflit. L'une a causé de la confusion, l'autre, silencieusement, mais de manière toujours plus visible, a porté et porte des fruits. D'un côté, il existe une interprétation que je voudrais appeler herméneutique de la discontinuité et de la rupture. Celle-ci a souvent pu compter sur la sympathie des mass médias et également d'une partie de la théologie moderne. D'autre part, il y a, tout à fait à l'opposé donc, hein, l'autre côté du terrain, dans l'autre Gaule, hein, l'herméneutique de la réforme, du renouveau, dans la continuité de l'unique sujet Église, que le Seigneur nous a donnée. C'est un sujet, l'Église, qui grandit dans le temps et qui se développe, restant cependant toujours le même, l'unique sujet du peuple de Dieu en marche. L'herméneutique de la discontinuité risque de finir par une rupture entre Église pré-conciliaire et Église post-conciliaire. Voilà. Vous voyez le champ de bataille, champ sémantique si vous voulez. Benoît XVI décrit donc cette première herméneutique comme une volonté de dépasser les textes du Concile. Il va le dire plus loin, vous pourrez lire ça chez vous. C'est, on veut dépasser les textes du Concile par le véritable esprit de Vatican II, qu'on ne définit pas, un esprit qui encouragerait à aller toujours de l'avant, au-delà des textes, vers une nouveauté au contenu très vague, qui représente en fait, dit le pape, une discontinuité. Donc ça ne va pas. Or, poursuit le pape, à l'herméneutique de la discontinuité s'oppose l'herméneutique de la réforme. Réforme. Ainsi que l'ont voulu Jean XXIII et Paul VI. Alors Jean XXIII parce qu'il visait à transmettre la doctrine sans atténuation ni déformation, c'est une citation de Jean XXIII, et Paul VI parce qu'il n'a jamais abandonné la continuité des principes, malgré les apparentes discontinuités. Donc ça paraît parfois discontinu, mais en fait les principes sont les mêmes chez Paul VI. Alors pour Benoît XVI, attention, c'est précisément dans cet ensemble de continuité et de discontinuité à divers niveaux que consiste la nature de la véritable réforme. Ça semble discontinu, mais c'est continu, la réforme. Car, dit-il, le Concile a bien revisité ou corrigé des décisions historiques anciennes. Il y a eu des changements. Mais dans cette apparente discontinuité, il a en revanche maintenu et approfondi la nature intime et la véritable identité de l'Église. Voilà. C'est le pape qui dit. Et ainsi donc, c'est le point fort, je crois, l'Église est, aussi bien avant qu'après le Concile, la même Église, une, sainte, catholique et apostolique, en chemin à travers les temps. En chemin. La même, mais en chemin. Alors, si on lit Vatican II, dit le pape, en se laissant guider par ce que le pape nomme une juste herméneutique, alors le Concile peut être et devenir toujours plus une grande force pour le renouveau toujours nécessaire de l'Église. Et voilà, c'est bien ça que nous avons essayé de montrer et que je vais encore tenter de confirmer ce soir, non sans m'aider, encore une fois, de mes lectures. On ne peut pas lire des bandes dessinées toute la journée, hein, donc voilà. Eh bien, et donc, il faut lire parfois aussi les théologiens qui ne sont pas tous des malfaiteurs. Hein. Et à ce propos, je dois faire un petit repentir, parce que là, repentir, comme on dit en peinture, hein, vous savez, quand on fait des retouches, là. Hein, parce que la semaine dernière, j'ai dit, parce que j'étais un peu troublée par la présence d'un prélat, en face de moi, il avait été mon élève, il était là. Bref. Eh bien, j'ai dit que le père Congar a raté son chapeau de cardinal parce qu'il avait pris position dans cette lettre, authentique d'ailleurs, sur Romanivité. Non, c'est pas pour ça qu'elle a raté son chapeau. Hein. C'est parce qu'il a signé une grande lettre des théologiens pour la liberté, protestant auprès de Rome, espérant donc pouvoir garder leur liberté de penser. C'était au début des années 70, je crois. Eh bien, il y avait plus de 1000 théologiens de plus de 50 pays qui avaient signé cette lettre, dont le père Congar, qui y perdit son chapeau de cardinal, en tout cas provisoirement. Mais un certain Ratzinger avait signé la même lettre. Hein. Il faut tout dire. Alors, voilà, parlons un peu maintenant de notre herméneutique, notre interprétation à nous de ce concile. Au fond, que valent les affirmations de Vatican II ? Il y a eu, évidemment, un certain nombre de choses nouvelles qui ont été affirmées, par exemple, par Gaudium et Spes, à propos de la question de Dieu et de la question de l'homme. Mais Est-ce que c'est là que réside la nouveauté du Concile, de s'être préoccupé de nouvelles manières de parler de Dieu et de l'homme? Certains, comme Walter Kasper, qui n'était pas encore cardinal, pensaient au sortir du Concile que, au total, l'intérêt du Concile a été beaucoup trop limité à l'Église, à l'Lumen Gentium, si vous voulez. Ce n'est pas le moindre des défis, disait Kasper, que représente Vatican II, que de nous inciter à aller au-delà des simples textes du Concile, parce qu'en fin de compte, tout l'effort du Concile et des réformes et le débat qu'ils ont suscité n'auront pas valu la peine s'il n'en est pas un plus de foi, d'espérance et de charité. Cela, et cela seul, est le critère ultime de toute herméneutique conciliaire, disait Kasper. Est-ce qu'après le Concile, il y a eu plus de foi, d'espérance et de charité? On peut aussi citer Ratzinger, à l'époque, qui, en l'an 2000, présentait ce qui reste sa thèse aujourd'hui. Vatican II a clairement voulu inscrire le discours sur l'Église dans le discours sur Dieu. Donc Kasper dit, on a trop parlé de l'Église. Ratzinger dit, on a parlé de l'Église, mais... on a voulu proposer une ecclésiologie au sens proprement théologique, mais, ça c'est le Concile, la réception du Concile a jusqu'ici négligé cette caractéristique en faveur des seules affirmations ecclésiologiques particulières. On s'est centré sur ce qu'il a dit de l'Église, et on n'a pas vu qu'en fait il ne parlait de l'Église que pour mieux parler de Dieu. Donc la réception du Concile s'est jetée sur des paroles particulières qu'il était facile de rappeler, et ainsi, elle est restée en deçà des grandes perspectives des pères du Concile. Et Ratzinger continuait, on peut dire quelque chose d'analogue à propos du premier texte que Vatican II a mis au point, la Constitution sur la Sainte Liturgie. Donc c'était déjà le cas dans le premier texte, dit-il. Donc vous voyez bien que quand on fait une lecture du Concile, on ne peut pas perdre de vue les grandes perspectives des pères. Parce que se focaliser sur un énoncé, ce n'est pas assez. On ne peut pas en rester au méandre des textes. Nous n'en sommes pas restés au méandre des textes. Nous avons tenu compte de la mécanique politique de Vatican II, parce qu'il y a une vraie façon de faire des textes avec des votes, des bulletins, des maudits, des comptages, etc. Il y a une vraie mécanique politique, inspirée d'ailleurs du Parlement belge, hein, je vous l'ai déjà dit, grâce à Philips. Donc on n'a pas ignoré ça, on n'a pas ignoré non plus le vocabulaire courant qui oppose, dès la première intercession, des partisans et des adversaires, hein, des textes, ou bien des opposants au renouveau et des partisans du renouveau, dans une certaine sorte de lutte constante entre majorité et minorité. On n'a pas ignoré ça. Et c'est justement ce que Paul VI voulait apaiser, en obtenant toujours la plus grande unanimité, chaque fois qu'il intervenait, c'était dans ce but-là. Mais notre parcours, non plus, n'a pas voulu souligner des ambivalences, des juxtapositions, des oppositions entre certaines doctrines du Concile. Il n'y a rien de plus facile que d'opposer certains textes du Concile les uns aux autres. Non, nous avons cherché à entrer dans un processus d'écoute, des convergences, et pas des compromis, auxquels nous-mêmes, lecteurs d'aujourd'hui, héritiers d'aujourd'hui, nous sommes appelés tout à fait à l'image des pères qui ont fait le Concile et des autres acteurs du Concile. Parce que dans leur travail de rédaction, eux-mêmes ont dû discuter, approuver, etc., mais en cherchant toujours la symphonie, si vous voulez. Pas le compromis, mais la convergence. Ils ont essayé d'être des hommes conciliaires, comme Philips, par exemple. Donc, qu'avons-nous fait, disais-je? Quelle était exactement notre méthode? Alors, je prends un autre auteur. Non, c'est le même, c'est Kasper, qui, justement, a essayé de formuler les principes d'interprétation du Concile. Alors, je vais vous lire ces principes, et puis vous allez voir comment nous les avons utilisés. En fait, ce sont les principes habituels qu'on doit utiliser pour n'importe quel concile, mais spécialement, il s'adapte spécialement à Vatican II. Premièrement, les textes de Vatican II doivent être compris et entendus dans leur intégralité. Tout. C'est la tension qui existe entre différentes affirmations particulières qui expriment la pointe pastorale du Concile. Parfois, il y a des choses qui sont un peu, pas en contradiction, mais qui s'équilibrent, alors il faut chercher là la pointe du Concile. Deuxièmement, bon, lire les textes, tous les textes. Deuxièmement, la lettre et l'esprit du Concile, la lettre et l'esprit, doivent être compris comme constituant une unité, lettre et esprit, ensemble. Le sens d'un texte particulier ne peut être dégagé que si l'on examine dans le détail l'histoire du texte et qu'on en fait ressortir l'intention du Concile, à savoir le renouvellement pour notre temps de ce qui est catholique. Donc, en étudiant l'histoire d'un texte, on voit, on entend, on apprend ce qu'ont voulu les pères. Donc, lettre et esprit ensemble. Donc, tous les textes, la lettre et l'esprit ensemble, histoire des textes. Troisièmement, comme tout autre concile, Vatican II doit être compris à la lumière de la tradition globale de l'Église, notamment avec les confessions de foi trinitaires et christologiques de l'Église ancienne. Tout de même, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. C'est la norme de la foi. Ensuite, le Concile, en dernier lieu, le Concile a voulu réfléchir au signe des temps, nous savons bien, dans Gaudium et Spes, en unissant la tradition et l'interprétation vivante d'une situation, celle de cette époque. Situation plus universelle que des erreurs bien définies, il n'y avait pas d'erreur à condamner. Ce qui provient de l'histoire contemporaine, donc, doit être assumé aujourd'hui en référence à l'avenir. Donc, nous devons faire le même acte d'interprétation, si vous voulez. C'est dans l'histoire d'aujourd'hui que nous lisons Vatican II. Donc vous voyez bien, il faut lire intégralement les textes. Il faut les lire dans l'esprit où ils ont été écrits. Et pour ça, retourner à l'histoire des textes. Il faut les lire dans la tradition, toute la tradition, pour éclairer la situation présente. Eh bien, ceux qui ont l'oreille attentive, dont les étudiants ici, reconnaissent exactement notre herméneutique des quatre sens de l'écriture. Vous l'avez bien vu, hein ? La doctrine des quatre sens de l'écriture, peut-être que tout le monde ne la connaît pas. Bien, lisez l'exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini, la toute dernière du pape Benoît XVI, au numéro 37, et vous aurez l'explication des quatre sens de l'écriture. Je vais quand même vous lire un petit morceau de ce numéro. Ça, tout ça se trouve sur Internet, évidemment. Donc, voici la description qu'en fait l'exhortation. C'est une exhortation consécutive à un synode sur la parole de Dieu. Hein. Alors, le pape dit ceci. « Rappelons la distinction classique qui établit la relation entre les divers sens de l'écriture. » Parce que l'écriture, c'est la matrice. Alors, il dit dans la langue de l'Église, dans le latin de cuisine de l'Église, il dit ceci. Littera gesta docet. La lettre enseigne l'histoire. Quid credas allegoria. Ce que tu crois, c'est l'allégorie. Moralis quid agas. La morale, c'est ce que tu fais. Cotendas anagogia. Anagogia. Ce vers quoi tu tends, c'est l'anagogie. Alors, ça a l'air abscon. Mais enfin, au commencement, il y a l'histoire. Ensuite, sur la base de cette histoire, il y a un triple sens spirituel qui est allégorique. Le mot dit la chose, mais la chose renvoie à son tour à autre chose, disait saint Thomas d'Aquin. Donc quand vous lisez « Jésus entra à Jéricho et Zachée monta sur le sycomore », ben c'est ça, c'est, hein, Jésus entre à Jéricho, Zachée monte sur le sycomore. Mais quand même, il y a autre chose. Jéricho, c'est pas rien, Jéricho, dans la Bible. Et le sycomore, c'est pas rien non plus dans la Bible, vous voyez ? Allégorie. Et puis, ce que tu dois faire, c'est le sens moral. Le sens moral, c'est en conséquence. Hein. Zachée dit, ah, moi je vais faire ci, je vais faire ça, vous avez bien vu, hein. Tout de suite, hein. Ça donne une action, quoi. D'avoir compris quelque chose permet d'agir. Et ce que tu espères, ou ce vers quoi tu tends, c'est l'anagogie. Mais c'est pourquoi ? Mais c'est pour la vie éternelle, c'est toujours comme ça. Donc voilà les quatre sens de l'écriture. Nous, ici, enfin, chacune de nos phrases est sous-tendue par ces quatre sens de l'écriture. C'est le centre, le cœur du dispositif de la maison. Mais c'est exactement ce genre de méthode appliquée de façon originaire à l'écriture, qui surgit de la lecture de l'écriture, c'est exactement ce genre de méthode que nous avons employé pour lire le Concile Vatican II. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait d'habitude quand on lit un concile. Donc je ne vais pas plus loin dans la description de cette méthode, enfin plus loin dans la technique, j'en dis encore un peu plus quand même, mais pas plus technique. Dès le premier soir, je vous ai dit que Vatican II s'est présenté comme le fruit de tous les mouvements qui l'ont précédé. Mouvement liturgique, mouvement patristique, mouvement biblique, écuménique, apostolique avec l'action catholique, etc. C'est un résumé du siècle qui l'a précédé. Mais en tant que concile écuménique, une fois qu'il a lieu, il est sûrement le fruit, bien sûr, le fruit des mouvements qui l'ont précédé, mais à partir du moment où il a lieu, c'est lui qui devient l'événement magistériel à partir duquel on va interpréter la tradition qui précède. Et ce n'est pas l'inverse. Donc ce n'est pas la tradition, la vieille tradition qui interprète la nouvelle, c'est la nouvelle qui interprète ou redimensionne l'ancienne. Attention. Et donc, lire les textes comme nous l'avons fait, ce n'est pas encore assez. Il faut entendre Vatican II comme un acte de discernement exemplaire que toute l'Église, réunie dans la personne de ses évêques, a porté sur la tradition précédente, comme des héritiers de la tradition précédente, et qu'ils ont reformulé. Je vous ai donné l'exemple de la dans un domaine marial, hein, avec le chapitre 8 de Lumen Gentium, qui est vraiment une nouveauté, même s'il assume toute la tradition antérieure. Donc, comprenez ceci, c'est à partir de Vatican II qu'il faut aujourd'hui lire la tradition, et pas l'inverse, comme font certains. C'est devenu un acte de tradition, Vatican II. Et donc, c'est à partir de lui, de ses affirmations à lui, qu'on retourne vers la tradition et pas le contraire, je le redis. Peut-être sommes-nous trop habitués à penser que le concile est d'abord un acte magistériel, il l'est, mais c'est d'abord un acte de la tradition catholique et ceci vaut éminemment, c'est la seule arme fatale contre l'intégrisme à la Mgr Lefebvre. Hein. Comprenez ? C'est comme ça que nous avons compris Vatican II. Alors c'était un parcours austère, puisque dans un certain nombre de cas, nous sommes repartis de la genèse des textes, l'histoire des textes. Nous avons tâché de nous imprégner de leur contenu. Hein. On s'est escrimé à traverser les textes, plus ou moins vite. Et puis aussi, on a parfois essayé d'avancer, plus ou moins longuement, dans les aspects de la réception, ce qui s'est passé après. Donc c'est ça notre herméneutique. Elle était historique, elle était doctrinale, elle était magistérielle, souvent du côté du magistère pontifical, mais parfois aussi épiscopal, et même du magistère, parce que c'en est un, de certains théologiens, dont le cardinal Ratzinger ne pouvait pas être exclu. Mais ce n'est pas le seul théologien du monde. Voilà. Alors j'aurais pu convoquer un autre herméneute pontifical. Pour finir ce point, je le fais. Je crois que je vous ai déjà fait entendre quelque chose du testament de Jean-Paul II. Jean-Paul II, quand il a écrit son testament, enfin, ce testament qu'on a découvert après sa mort, il a écrit bien avant sa mort, hein, ce testament. Il écrivait au numéro 4 de son testament, pendant l'an 2000, donc, « Me trouvant au seuil du troisième millénaire, in medio ecclesiae, dans l'Église, mon milieu. Je désire, encore une fois, exprimer ma gratitude à l'Esprit-Saint pour le grand don du Concile Vatican II envers lequel je me sens débiteur avec l'Église tout entière. et surtout avec l'épiscopat tout entier, parce qu'il n'était pas évêque, il était évêque auxiliaire tout au début. Hein, donc voilà. Je suis convaincue qu'il sera encore donné aux nouvelles générations de puiser pendant longtemps aux richesses que ce concile du XXe siècle nous a offertes. En tant qu'évêque qui a participé à l'événement conciliaire du premier au dernier jour, d'abord comme auxiliaire de Cracovie, il était l'un des derniers évêques à l'avoir fait, je désire confier ce grand patrimoine à tous ceux qui sont et qui seront appelés à le réaliser à l'avenir. C'est nous ça. Pour ma part, je rends grâce au pasteur éternel qui m'a permis de servir cette très grande cause au cours de toutes les années de mon pontificat. Voilà. Donc, c'est le dernier mot de Jean-Paul II, ça, qui avait dit au début de son pontificat, la récréation est finie, hein, ou presque, enfin, comme de Gaulle, hein. Tout le concile et rien que le concile, hein, c'est ce qu'il a dit au début, hein. Voilà ce qu'il dit à la fin. Donc, c'est pas rien, ce concile. Et il dit que ça va durer encore longtemps avant que on épuise les richesses de ce concile. Voilà donc pour quelques protagonistes autorisés, des commentateurs ou des acteurs du concile, comment se présente ce patrimoine que nous pouvons à notre tour recevoir, puisque c'est nous les héritiers. Parlons maintenant donc dans un troisième temps, revenons à cette notion de réception. J'ai beaucoup expliqué maintenant ce que c'était l'herméneutique, hein, et jusqu'ici. Maintenant, la réception. Distinguons. Prenons la définition, par exemple, de Gilles Routier, qui est un prêtre canadien très, très expert dans ces domaines, de Vatican II, de sa réception, de son herméneutique, depuis 25 ans, un des meilleurs. Il dit ceci. On désigne par réception le fait de recevoir un texte, c'est-à-dire son accueil effectif par un lecteur ou une communauté de lecteurs, l'accueillir effectivement ce texte, et on appelle interprétation ou herméneutique sa lecture, laquelle présuppose normalement sa réception. Vous comprenez ? L'herméneutique présuppose normalement la réception. Comment voulez-vous interpréter quelque chose que vous n'avez pas reçu? J'avais déjà cité la semaine dernière, le père Congar, qui, comme je vous le disais, est le réacclimateur de cette notion de réception dans la théologie catholique. Il disait ceci, on peut définir, c'est plus théologique comme définition, on peut définir la réception comme le processus par lequel un corps ecclésial, fait sienne en vérité une détermination qu'il ne s'est pas donnée à lui-même, en reconnaissant dans la mesure promulguée une règle qui convient à sa vie. C'est la réception. C'est une consonance d'une communauté chrétienne avec quelque chose qu'il ne s'est pas donné, mais qui correspond bien à sa vie. L'Esprit atteste l'Esprit, si vous voulez, l'Esprit Saint, qui est dans le cœur des fidèles, reconnaît dans ce qui lui est demandé, la même voix de l'Esprit. L'Église reconnaît la voix de l'Esprit. Alors, on pourrait citer aussi Don Lannes, Emmanuel Lannes, bénédictin de Cheftogne, français, mais néanmoins cheftonien, qui est aussi un très grand connaisseur de ce domaine de la réception, et qui est lui, évidemment, très attentif aux apports des orientaux. Il disait que c'est un processus, la réception, un processus d'assimilation progressive. Assimilation progressive dans le droit fil de la tradition apostolique et en harmonie avec le sens des fidèles. Le sens des fidèles de toute l'Église. Qu'est-ce que c'est le sens des fidèles? Tout le monde devrait savoir ce que c'est le sens des fidèles, parce que sur le sens des fidèles repose l'infaillibilité du pape. Tout le monde est pour l'infaillibilité du pape. Mais il n'y a pas d'infaillibilité du pape s'il n'y a pas d'infaillibilité du peuple de Dieu dans la foi. Comprenez? Alors, je cite ici, pour expliquer ce que c'est le sens des fidèles, de la foi des fidèles, Lumen Gentium 12, c'est là que ça s'explicite. Dans Lumen Gentium 12, on lit, ça va, l'ensemble des fidèles qui ont reçu l'onction du Saint, on cite la première de Jean, ne peut pas errer dans la foi. L'ensemble des fidèles ne peut pas errer dans la foi. C'est ça l'infaillibilité d'abord du peuple. Et il manifeste cette prérogative au moyen du sens surnaturel de la foi, commun à tout le peuple, lorsque, depuis les évêques jusqu'au dernier des fidèles, il fait entendre son accord universel dans les domaines de la foi et de la morale. Ça, c'est une caractéristique du peuple chrétien. Il ne peut pas errer dans la foi. C'est même pourquoi, je le répète, on a un jour reconnu l'infaillibilité pontificale, parce que le pape, c'est pas en tant que pape, c'est en tant qu'évêque de Rome. Parce que l'évêque de Rome, l'église de Rome n'a jamais erré dans la foi. C'est ça, l'idée. L'église de Rome n'a jamais erré dans la foi. Il y a des papes qui ont été hérétiques, mais pas la communauté des fidèles de Rome. Et c'est en tant qu'évêque de Rome que le souverain pontife a, dans certaines circonstances très précises, ce don de l'infaillibilité. Mais ce don est d'abord un partage de toute la communauté, chrétienne, quand, depuis le pape jusqu'au dernier des fidèles, etc., on reconnaît, c'est ça, recevoir au cœur de l'Église la parole du Christ et le témoignage de l'Esprit-Saint. Bon, je reviens à Don Lannes qui disait donc un processus d'assimilation progressive dans le droit fil de la tradition apostolique, en harmonie avec le sens des fidèles de toute l'Église. Donc, qu'est-ce qu'on reçoit ? Des témoignages nouveaux de la vérité catholique. Des témoignages nouveaux. Mais cette notion, à Vatican II, on ne la trouve qu'une fois expliquée, et c'est dans le numéro 22 de Lumen Gentium, où elle est attribuée seulement au pape. Quand on dit que le pape doit recevoir les décisions du concile œcuménique. J'ai posé la question la semaine dernière des rapports du pape avec le concile. Ben, le pape doit recevoir le concile. Et ici, on a restreint à la fonction pontificale le fait de recevoir un concile. Mais c'est toute l'Église qui doit recevoir le concile en vertu du sens de la foi des fidèles. Donc, aujourd'hui, si la réception paraît être la tâche du seul magistère pontifical, jusqu'à la fin du Moyen Âge, une décision ecclésiale était reçue par tous dans la mesure où elle était fondée sur l'Écriture telle que l'avaient interprétée les grands conciles et les pères. Cette conspiration, c'est-à-dire respiration de tous ensemble, c'est pas autre chose. Donc cette conspiration de tout le peuple de Dieu dans le renouveau de la vie de l'esprit constitue vraiment le critère de l'authentique réception d'une décision conciliaire ou ecclésiale. Peut-être d'ailleurs, disait Don Lannes, dans ce processus de réception, n'est-ce pas seulement le Christ et sa parole qui sont accueillis, mais le mystère même de l'Église. C'est le mystère de l'Église qui se réalise dans ce phénomène, enfin, ce processus de réception, parce qu'elle est le corps et l'épouse du Christ. De la sorte, je finis avec ça, la notion ecclésiologique de réception ne nous situe pas seulement face à une parole de Dieu qui nous est offerte et que nous devons accueillir, ou une parole du pape, mais à l'intérieur de cette parole de Dieu qui fait l'être profond de l'Église. Voilà. C'est vraiment la charge sacerdotale des fidèles qui s'exerce ici. Donc, comment le Concile Vatican II a-t-il été reçu ? Je vous ai déjà fait une sorte de petite nomenclature la fois dernière, en disant que déjà le Concile se recevait lui-même, puisque dans Gaudium et Spes, on cite combien de fois Lumen Gentium ? Idem dans Agentes, combien de fois Lumen Gentium ? Donc, les textes du Concile eux-mêmes citent le Concile. Façon de recevoir le Concile déjà, commencer au moins. Et plusieurs passages des documents du Concile tâchent d'expliquer de quoi il retourne, comme s'il fallait déjà interpréter le Concile. Bon. J'ai aussi attiré votre attention sur les discours des papes, qui sont vraiment une clé de lecture du Concile. Les discours des papes au début et à la fin de chaque session. Et aussi les relations des rapporteurs qui, avant chaque vote, disaient « Voilà, il y a eu 10 000 amendements pour ce texte, nous avons décidé de le changer comme ceci, comme ça, parce que ceci, ceci, cela. Ça, c'est vraiment là qu'on trouve le sens des textes. Hein. Subsistit in, par exemple, nous n'avons pas voulu dire est, nous avons voulu dire subsiste dans, pour ne pas identifier l'Église, etc., avec l'Église catholique, pour ne pas l'identifier sans reste. C'est là que se trouvent les explications. Donc, dès les commencements. Mais, je vous l'ai montré la fois passée, tous les documents depuis le Concile jusqu'à nos jours sont une interprétation et une réception du Concile, pour autant que les chrétiens eux-mêmes les lisent. Voilà. D'une façon ou d'une autre, on n'est jamais sorti jusqu'à nos jours de Vatican II. Alors, pourtant, il reste bien des questions. Je prends celle de Père Routier, encore une fois, qui a un jour listé tous les problèmes qui restent ouverts dans le seul domaine de l'ecclésiologie. Donc, c'est un grand concile ecclésiologique, Vatican II. J'ai dit au début, avec Ratzinger, on a peut-être dû plus s'occuper de Dieu que de l'Église, mais enfin, on s'est beaucoup occupé de l'Église, c'est un concile ecclésiologique. Eh bien, pourtant, il y a un certain nombre d'affirmations qui demandent des précisions, des compléments, des ouvertures encore. Alors, je vais lister avec le Père Routier un certain nombre de choses, et puis je les reprendrai en posant des questions. Donc, premièrement, donc, au Concile, je prends 3-4 angles d'approche, comme d'habitude, hein, selon les 4 sens de l'Écriture, d'ailleurs. C'est ça le secret. Premièrement, l'Église est comprise comme sacrement du salut. Rappelez de cette expression de Lumen Gentium, sacrement du salut. Eh bien, c'est une perspective qui, au Concile, a finalement été peu élaborée. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire, sacrement universel du salut. Or, cette affirmation apparaît à un endroit tout à fait stratégique, au numéro 1 de Lumen Gentium, mais le reste du Concile n'en a pas dit beaucoup plus. Et pourtant, cette expression est reprise par plusieurs autres textes du Concile, mais sans expliquer plus. Donc ça fait sens, on ne sait pas très bien quoi, ça fait sens. Deuxièmement, l'Église est le peuple de Dieu, ou bien c'est le peuple messianique, toujours Lumen Gentium. Voilà une forme, une manière de parler de l'Église qui était déjà présente dans le texte sur la liturgie, au numéro 41, on parlait déjà ainsi. Et c'est une perspective qui va ouvrir la voie de très grands développements en ecclésiologie. C'est une figure qui fait vraiment l'objet d'une préférence. Dans Lumen Gentium, vous vous rappelez, on a tout un chapitre là-dessus. Mais, en fait, dire « peuple de Dieu », ça c'est suggérer tout un rapport au monde et tout un rapport à Dieu. C'est le peuple de Dieu, un peuple théophore, si vous voulez. Hein. Et en même temps, tous les peuples ne sont pas pareils que ce peuple de Dieu. Donc, on a un rapport au monde et un rapport à Dieu très caractéristique ici, qui n'est pas non plus très expliqué. Troisièmement, l'Église est entendue comme communion. Surtout au synode de 1985 d'ailleurs, mais c'est évidemment très présent dans les textes du Concile, en particulier dans le décret sur l'écuménisme. Dans ce décret et ailleurs, l'utilisation de cette notion de communion renvoie à la communion entre églises, souvent, surtout dans le décret sur l'écuménisme et dans le décret sur les missions. Dans les 14 premiers numéros de Lumen Gentium, cette communion est aussi mise en rapport avec les dons du Saint-Esprit, quelque chose à voir avec le Saint-Esprit. La communion, c'est le peuple de Dieu rassemblé, c'est le lieu de la diversité, c'est le lieu de l'expression des charismes, c'est le lieu de l'action de l'Esprit. Voilà donc un concept de l'Église qui est profondément pneumatologique. Cette Église, c'est une Église de l'Esprit Saint. Enfin, il y a d'autres perspectives encore qui sont ouvertes par le Concile en matière d'ecclésiologie. L'Église est une réalité à la fois humaine et divine, Lumen Gentium 8, comme le Christ, à la fois homme et Dieu. C'est une réalité théandrique. Théos, hein, Théos, Dieu, Anthropos, Théandrique, voilà. Réalité à la fois humaine et divine. C'est le germe du royaume, n'est pas le royaume, mais c'est son germe. Elle est l'icône de la Trinité, elle est la servante. Une église servante et pauvre, une église en pèlerinage, vous vous souvenez peut-être. C'est une église centrée sur l'Eucharistie. C'est l'Eucharistie qui est le vrai lieu de l'église. Sans compter qu'au Concile, on a introduit la mariologie dans l'ecclésiologie, Marie dans l'église. On a aussi introduit l'anthropologie à côté de l'ecclésiologie. On a mis l'église dans l'anthropologie, en fait. Donc, voilà des questions qui ont été traitées par le Concile. Maintenant, quel genre de questions cela pose d'avoir vu les choses ainsi? Que l'Église soit déclarée sacrement du salut. Très bien. Mais alors, qu'en est-il des autres? Des autres Églises? Ou des autres autres? Pour le domaine œcuménique, c'est très important. Si on a une autre Église, nous, l'Église, et sacrement du salut, quoi pour les autres? Question. Deuxièmement, l'Église, c'est le peuple de Dieu. Très bien. Mais est-ce que ça veut dire qu'à la suite d'Israël, l'Église se comprend comme un don de Dieu dans le monde et pour le monde? C'est comme Israël ou c'est pas comme Israël? Quand même, ce sont des questions qui sont ouvertes encore aujourd'hui. Troisièmement, l'Église était une communion, disais-je. C'est un vrai concept conciliaire, même s'il a été mis en évidence après. Ils n'ont même pas vu à la fin du Concile. Personne. Après, le Concile ne parle de communion, de l'Église comme communion. Hein. C'est 20 ans après. Même si le mot est là à plusieurs reprises et partout. Eh bien, voilà un concept qui, au Concile en tout cas, renvoyait d'abord à la communion entre les Églises locales, avec l'Église universelle, et qui ne désignait pas d'abord la communion des vocations, des ministères et des fonctions, la communion interne, quoi. Non, pas d'abord. C'est plutôt un concept comme les ligaments dans un corps, si vous voulez, hein, qui relie les os entre eux. Ensuite, à cet égard, toujours, l'Eucharistie, c'est vraiment le lieu principal et la manifestation, par définition, la manifestation la plus éclatante de l'Église. Nous sommes donc devant une ecclésiologie eucharistique. Ecclésiologie eucharistique, fondée sur l'Eucharistie. Mais c'est une ecclésiologie des orientaux, ça, d'ailleurs. C'est Afanasieff qui est cité dans la relation du Concile quand on parle de l'Église comme une communion eucharistique. Est-ce que cette lumière orientale sur l'Église continue aujourd'hui d'éclairer le paysage eucharistique latin? Point d'interrogation. Nous sommes dans la semaine pour l'unité des chrétiens. Hein. Comment est-ce que nous voyons l'Eucharistie? Comment est-ce que la voix, est-ce que c'est pareil? Enfin, l'Église s'est donc présentée comme réalité théandrique, mystérique, germe du royaume, icône de la Trinité, servante, etc., dont Marie est le type. Mais on a dit aussi ailleurs qu'elle est l'univers en tant que transfiguré par la grâce, dans Gaudium et Spes. L'Église, au fond, c'est tout le cosmos, quand on le regarde du point de vue de Dieu. Il faut aussi situer l'Église parmi les religions du monde et par rapport au salut de tous, etc. Donc ça devient compliqué. L'Église, en fait, l'Église, c'est un concept polysémique. Donc, si vous voulez, Vatican II offre à la réception plusieurs perspectives ecclésiologiques, plusieurs figures qui ne s'excluent pas, mais qui sont souvent complémentaires, mais ne sont pas identiques quand même. Donc la réception va jouer ici un rôle capital. Qu'est-ce qu'on va mettre le plus en évidence? C'est vrai que depuis le synode de 85, c'est l'Église comme communion. Mais c'est quand même assez nouveau, ça, par rapport au Concile. C'est pas comme ça qu'on l'entendait au Concile. Eh bien, voilà. Comment est-ce que nous allons recevoir Vatican II? Comment est-ce que nous allons l'interpréter? Recevoir, c'est interpréter. Mais interpréter guide aussi la réception. C'est un jeu, hein, entre les deux, entre recevoir et interpréter. Il y a des liens réciproques, mais c'est sur ce terrain que va se jouer l'avenir de Vatican II, sur le terrain de la réception. comment Vatican II va-t-il être reçu? La réception, c'est quand même ça le but, même si l'herméneutique, c'est le moyen. Alors, encore une fois, Vatican II est, à ses égards, un concile spécial, insolite. Pourquoi? Ici, je prends un autre auteur, un italien, pour changer. Ruggeri montre que, contrairement au concile du passé, qu'on aurait pu interpréter par leur résultat final, voilà, ça a donné autant de canons, etc., Vatican II, c'est un concile où la diversité des opinions des individus et des églises s'est manifestée très clairement. Pas un résultat homogène, Vatican II. Avant même que cette diversité n'entre dans les textes, elle était déjà manifestée. Comment? Pour la première fois de l'histoire, des observateurs, des frères séparés, hein, des hérétiques, quoi, des schismatiques, ont pu exercer une certaine influence en exprimant leur opinion. On pourrait multiplier les exemples qui montrent clairement que l'Église à Vatican II s'est manifestée sous une forme inédite, celle d'une communion cimentée par la présence du Christ. Si l'on considère les années post-conciliaires, c'est surtout cette nouvelle manière d'être Église qui a été transmise par Vatican II. À côté des textes conciliaires, que personne ne connaît, on ne les lit pas, le problème de la réception de Vatican II est principalement celui de la synodalité, conciliarité, de toute l'Église à mettre en œuvre à tous les niveaux, à commencer par celui de la célébration liturgique. Pas le prêtre tout seul. Contrairement aux apparences, ce n'est pas une tautologie, c'est-à-dire une répétition des mêmes choses. Ce n'est pas répétitif de dire que le Concile s'est transmis lui-même. Qu'est-ce qui a été transmis à Vatican II? Un processus conciliaire, hein, qui a été enclenché dans l'Église, en dépit des contradictions et des retards, même si c'est avec une intensité diverse. En ce sens, la nouvelle doctrine de l'Église n'est pas seulement le fruit de l'Umen Gentium et des autres textes, elle naît de la célébration du Concile en tant que tel. C'est l'événement Vatican II qui a fait l'événement. Pour revenir au titre de au Malais. Donc, comment allons-nous faire, nous, pour que l'Église d'aujourd'hui, qui n'est pas différente de celle d'hier, soit reçue, pas tant dans les textes, même s'il faut les lire, j'y tiens, mais dans cet acte liturgique qu'a été l'Assemblée conciliaire. Donc comment est-ce qu'on va passer de la mémoire du passé à l'histoire critique, quand on regarde les textes, et puis après, de l'histoire critique à la mémoire actuelle de ce qu'est l'Église. Ce n'est pas la mémoire du passé pour la mémoire du passé, c'est la mémoire du passé, Vatican II, avec une petite distance, que celle de la critique, mais pour retourner à la mémoire de ce qu'est l'Église aujourd'hui. C'est pour ça qu'on lit Vatican II. Donc, c'est sûr qu'on pourrait discuter, je ne veux pas le faire maintenant, mais sur la façon dont Vatican I et Vatican II, j'ai déjà dit la fois passée, quelques autres fois, sont complémentaires. Et qu'en fait, on ne recevra pas Vatican II tant qu'on n'aura pas mieux reçu Vatican I. Mais on recevra mieux Vatican I si on reçoit bien Vatican II. L'infaillibilité pontificale ne se comprend qu'à la lumière de la collégialité épiscopale. On ne peut pas séparer ces deux derniers conciles, ils doivent être reçus ensemble. Et l'infaillibilité du pape, l'infaillibilité indocendo dans l'enseignement, c'est le corollaire de l'infaillibilité incredendo. Donc, que je vous expliquais tout à l'heure, le peuple de Dieu tout entier ne peut pas errer dans la foi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infaillibilité incredendo, l'infaillibilité dans la foi. Eh bien, l'infaillibilité indocendo de ceux qui enseignent, le pape tout seul, ou le pape avec le concile, ou le concile avec l'accord du pape, toutes les formes d'infaillibilité, parce qu'il n'y en a pas qu'une dans l'Église, ne se comprennent pas sans l'infaillibilité du peuple de Dieu qui ne peut pas errer dans la foi. Donc c'est sûr, je le répète, que Vatican I et Vatican II vont ensemble, et que c'est ensemble aussi qu'ils doivent être considéré. Je vais finir par une autre citation. qui sera celle de Paul VI. Paul VI, le pape qui a poursuivi le concile, sans lequel le concile n'aurait pas abouti, puisque Jean XXIII l'a lancé, puis il est parti. Hein, souvenez. Voilà, je conclue. Vatican II s'est défini comme le 21e concile œcuménique. Œcuménique, ça veut dire qu'il vise l'œcuméné, l'ensemble du monde, ça, le monde entier. Et aussi qu'il réunit les évêques en communion avec le siège de Rome, tous les catholiques, universels, œcuméniques. Mais œcuménique Vatican II l'était aussi dans un autre sens, puisque Jean XXIII lui avait assigné comme but pas seulement le bien spirituel du peuple chrétien, mais d'être une invitation aux communautés séparées pour la recherche de l'unité chrétienne, à laquelle tant d'âmes aspirent aujourd'hui par toute la terre. C'est le moment d'en reparler dans cette semaine de l'unité. Et le désir de l'union était aussi fort dans l'esprit du peuple que celui de la rénovation, aggiornamento, de l'Église. Jean XXIII. Mais je vais, pour finir, citer Paul VI, disais-je. Il a un jour, quelques semaines avant sa mort, fait un de ses derniers discours à son audience générale de mercredi. C'était le 21 juin 1978. C'est que le pape quitte Rome à fin juin, hein, parce qu'il fait trop chaud, et revient en octobre. Mais lui, il a quitté Rome et puis il est mort à Castel Gandolfo le 6 août. Hein. Donc on est ici le 21 juin. Et voici les derniers mots d'une de ses dernières audiences publiques, parce qu'il a encore parlé à Castel Gandolfo, mais enfin c'est la dernière audience générale. Alors, il disait ceci, je traduis littéralement de l'italien. « Quel est notre message ? Il n'a rien, nous le savons bien, ni de grand ni d'original. » Et sur ce point, nous c'est lui, hein, nous c'est majestatif, sur ce point nous devons rendre manifeste la pensée dominante de notre ministère, c'est-à-dire de notre service du monde et de l'Église. Le ministère pontifical est un service du monde et de l'Église. Nous le dirons en un seul mot. Cette pensée, c'est-à-dire ce programme, c'est pour nous le Concile Vatican II, que nous avons, dans ces années passées, célébré et que depuis, on est en 78, hein, nous cherchons à traduire en pratique dans l'esprit vivant. Tradurre in costume in spirito vivente. Pas traduire en costume. Hein, traduire en... Et il ajoutait, frères et sœurs, nous sommes fidèles à ce grand événement et nous en avons fait la lumière de notre histoire. L'amour pour l'Église nous assiste et nous guide pour en faire vraiment la lampe de notre histoire et de notre espérance en l'au-delà, avec notre bénédiction apostolique. Voilà, je voulais vous montrer que la réception de Vatican II est encore devant nous.